VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
Ici à Bamako, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Conférence du G20 Afrique ce lundi et mardi à Berlin. À moins de mois du sommet du G20 à Hambourg, l'Allemagne compte profiter de sa présidence du groupe pour offrir aux pays africains une plateforme pour entrer en contact avec des investisseurs et renforcer l'engagement du secteur privé en Afrique, a souligné le ministre allemand des Finances, Wolfgang Schäuble, dans un communiqué. Plusieurs leaders africains sont attendus à ce G20 Afrique, notamment les dirigeants du Niger, du Mali, ainsi que le président de l'Union africaine, le Guinée Alpha Condé, qui seront tous reçus par la chancelière allemande Angela Merkel à l'ouverture de la conférence ce lundi après-midi. On reste en Europe. Cour pénale internationale de La Haye, près de 2 ans après l'ouverture de son procès, l'ancien chef de guerre de la RDC, Bosco Ntaganda, devrait prendre la parole mercredi devant la CPI, la Cour pénale internationale, où il sera le premier accusé à s'exprimer pour sa défense. Jusqu'à présent, Ntaganda s'était seulement expliqué en plaidant non coupable et en jurant n'être qu'un soldat, pas un criminel. Rappelons que Bosco Ntaganda, 43 ans, est accusé de 13 crimes de guerre et 5 crimes contre l'humanité, dont meurtre, pillage, attaque contre des civils, viol et esclavage sexuel commis par ses troupes en 2002-2003 en Ituri, dans le nord-est de la RDC. Et puis en RDC même, nouvelle attaque contre une prison. Cette fois-ci dans la ville de Beni, dans l'est du pays, où plus de 900 détenus se sont évadés hier en début de soirée à la faveur de cet assaut à l'arme lourde. 11 personnes ont perdu la vie, 8 gardiens et 3 détenus. Les autorités locales parlent d'un groupe rebelle, Mai Mai. Un couvre-feu a été décrété pour tenter de retrouver les évadés. De Goma, chef-lieu de la province du Nord, Kivu, notre correspondant Charlie Kasereka fait le point.
C'est vers 15h locales ce dimanche qu'un groupe d'hommes armés a lancé une attaque sur cette maison carcérale de la ville de Beni. Sur les 966 personnes civiles et militaires qui étaient en détention dans cette maison carcérale de Kangwayi, seulement une trentaine est restée et seraient tous des militaires. Le gouverneur de la province du Nord Kivu, Julien Paluku, a vite convoqué une réunion de crise dans la soirée et des mesures sécuritaires viennent d'être prises.
Il y a au total 11 morts, dont 8 gardiens de prison qui ont été abattus par les assaillants qui ont attaqué la prison à l'arme lourde. Mais la grande mesure que nous venons d'adopter, c'est de pouvoir annoncer le couvre-feu à partir de ce dimanche à 18h30 sur toute l'étendue de Beni également, sur la ville de Butembo.
La prison centrale de Beni a déjà subi d'autres attaques similaires dans le passé, comme d'ailleurs plusieurs autres prisons de la RDC dans différentes grandes villes ces derniers temps, dont la plus spectaculaire a été celle du 17 mai dernier à la prison centrale de Makala, où plus de 4000 personnes se sont évadées. Charlie Kasereka depuis Goma pour VOA Afrique.
RDC toujours, plusieurs familles du village de Kalou Koulouku ont été contraintes de déguerpir par l'entreprise minière Chemical of Africa, qui dispose du soutien de la police et de l'armée. Ces familles dénoncent également leurs conditions d'hébergement dans un centre de promotion sociale destiné aux réfugiés dans la commune de Kamalondo, nous dit notre correspondant à Lubumbashi, Narval Mabila.
22 familles croupissent dans la misère au centre de promotion sociale dans la commune de Kamalondo après avoir été délocalisées par force au village Kaloukoulou par l'entreprise Chemaf. Tous veulent s'exprimer pour dénoncer leurs conditions de vie.
Manumba, tous les 26, 18h30, maintenant déjà au pomona Manumba. 2h, Angé, Chemaf.
Et c'est bateau bazana bonne. Tabako zana manque au biso doza ouyo. Ça veut dire ça la boye. Angé n'avait donné une place là-bas. Mais Chemaf, ils sont venus, ils sont pour promener tout air. Donc ici, là, il y a des gens qui souffrent, Binani, tout ce qu'on avait comme des habits, de mousse, il n'y a rien vraiment. Les conditions qui sont ici, c'est mauvais les conditions. Parce que si tu étais même avec le caméra, tu voulais filmer, voir, il y a des gens qui souffrent, il n'y a pas à manger, même les toilettes, il n'y a pas, on est en train de souffrir, on dort, c'est même pas les courants, il y a des gens dont il y a enfamé, des gens qui sont malades, l'autre des gens qui sont à l'hôpital, et même il y a des bébés ici.
Ils vivent dans des conditions inhumaines, constat fait par les voisins qui environnent les centres d'hébergement, Odette Moussa et à notre micro.
Ils vivent vraiment. Ils viennent des Chemaf du côté de la Roissy. Ce sont des Congolais comme nous. S'il y a moyen, s'il y a quelqu'un qui peut les aider, ils viennent les aider. Ils vivent très mal ici. Il y a des enfants qui sont malades ici. Ils ne sont pas dans une bonne condition.
Face à l'indifférence des autorités politico-administratives, l'ONG Justicia SBL, qui s'occupe des droits de l'homme, lance un plaidoyer pour le sans-logis. Maître Timothée Mbouya nous retrace les contours.
Ce que nous avons vu ici est vraiment déplorable. Les gens sont hébergés dans des conditions inimaginables. Il y a à craindre des maladies. Et en fait, la promiscuité qui est ici est intolérable. Nous avons vu des hommes, nous avons vu des femmes, nous avons vu surtout des enfants qui commencent déjà à présenter un état pas très souhaitable parce que certains apparemment ont déjà des signes de malnutrition et toutes les autorités doivent s'impliquer pour aider à trouver une solution. Le plus tôt possible serait le mieux. Nous avons vu, nous n'allons pas nous taire. Ce que les gens nous disent, c'est qu'ils habitaient un village. Ce village, semble-t-il, a été annexé à une concession minière de l'entreprise Chemaf et que l'entreprise, avec le concours des autorités congolaises, a procédé à la destruction ou à la démolition des maisons. Ils ont été amenés ici par la mairie. Malheureusement, depuis qu'ils sont là, ils n'ont aucune assistance.
Le maire de la ville, Oscar Sanguza Mutunda, a préféré garder silence. Lubumbashi Narval Mabila, VO Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Des casques bleus tchadiens de la MINUSMA, la mission onusienne au Mali, rentrés de mission chez eux, ne sont pas contents. Ils ont lancé une opération dénommée Brûle Béret ONU la semaine dernière devant leur caserne à N'Djamena pour revendiquer 2 ans de salaire et de primes. Le capitaine Altora Maxime, l'un de leurs délégués, explique leur mouvement d'humeur.
C'est une manière de nous faire entendre, c'est aussi une manière de dénoncer le silence de l'ONU. Après la présence de ces effets, nous rappelle les mauvais souvenirs de cette mission. Le premier contingent a travaillé de 2014 à 2015, le deuxième contingent a travaillé de 2015 à 2016. Actuellement, c'est le troisième contingent qui est sur le terrain. Le ministère tchadien est discipliné. Contrairement aux autres qui revendiquent leurs droits avec Kalachnikov et roquettes en main, raison pour laquelle nous avons opté pour cette opération. Pour informer l'opinion nationale et internationale du désarroi dans lequel nous nous trouvons. C'est incompréhensible que les casques bleus d'autres contingents soient bien traités et que le casque bleu tchadien qui a vraiment hissé le drapeau du pays et qui a imprimé une bonne marque du pays à l'extérieur soit traité de cette manière. On ne sait pas si c'est l'aménagement qui va nous payer ou bien l'argent est déjà versé et que ce sont nos autorités qui refusent de nous payer.
Le capitaine Altora Maxime à N'Djamena au Tchad. Et puis la France et la Côte d'Ivoire veulent renforcer leur partenariat dans le domaine militaire et celui des renseignements afin de mieux lutter contre le terrorisme. C'est le résultat de la visite du président Alassane Ouattara dimanche à l'Elysée, Yacouba Ouédraogo.
Le président Alassane Ouattara a promis que la Côte d'Ivoire va jouer sa part dans la lutte contre le terrorisme au niveau de la sous-région ouest-africaine. Abidjan participe à la force de l'ONU déployée au Mali et 900 militaires français sont basés en Côte d'Ivoire pour former leurs homologues ivoiriens et surtout en appui de la force française antiterroriste Barkhane au Sahel. Le dirigeant ivoirien a ajouté que son pays va mettre l'accent sur les énergies renouvelables et l'éducation. Il s'est également réjoui du soutien de la France à l'élection de son pays comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU à compter de 2018. Le président Emmanuel Macron a, pour sa part, réitéré l'engagement de la France à aider la Côte d'Ivoire à démarrer très bientôt les travaux du métro d'Abidjan. Avec cette rencontre, suivie de la visite ce lundi du président sénégalais Macky Sall, Emmanuel Macron pose les jalons de sa politique africaine. Il va être présent au sommet du G5 en début juillet pour mieux coordonner la lutte contre le terrorisme avec les 5 pays sahéliens concernés.
Et pour terminer, au Mali, le texte qui doit être soumis à référendum pour amendement de la Constitution le 9 juillet est sujet à controverse des organisations de la société civile ainsi que certains partis politiques et des associations de jeunes sont mobilisés pour demander le retrait du projet, nous dit notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
L'opposition trouve qu'en plus de la violation de certains articles, la situation sécuritaire du pays ne permet pas l'organisation du référendum. Ce projet de constitution prévoit le Sénat et l'Assemblée nationale. Les deux combinés donnent le Congrès, qui doit s'attirer sur les questions référendaires à la place des Maliens. Les organisations de la société civile, certains partis politiques, des regroupements de jeunes et femmes viennent de mettre en place une plateforme dénommée Non c'est fini ou Enterre à Bana, une plateforme qui demande le retrait du projet constitutionnel et l'annulation du référendum. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. Oh oh.